Regard sur le christianisme, aux sources de notre foi, une émission proposée par Catherine Mann et Simon Martin. Siècle de notre ère, l'Église est formée de multiples communautés qui, si elles communiquent entre elles, ne sont pas moins relativement indépendantes. Cependant, portée par de grandes figures intellectuelles inspirées par l'Esprit-Saint, l'Église cherchera dès ses débuts à préserver son unité. En vain, malgré tous les efforts déployés et pas moins de 4 conciles en l'espace d'un siècle à peine, l'Église finira par se diviser. Quelles sont les grandes étapes qui ont mené à ce schisme de 1054? Nous le verrons avec Catherine Mann, bibliste du service formation du diocèse de Chartres. Catherine, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler concrètement comment s'organise la vie d'une communauté chrétienne dans les premiers siècles? Je dis qu'il y a beaucoup de différences dans les tout premiers temps.
Il n'y a pas tellement de différences, mais on respecte les coutumes locales. C'est surtout pour les rites qu'il y a des différences, il y a des habitudes. Mais effectivement, il y a des problèmes de compréhension aussi, parce que les textes, on a vu dans les émissions précédentes, les textes n'ont été écrits quand même que tardivement, et après, comment les comprendre, les interprétations, c'est chacun qu'on voit midi à sa porte, autant à cette époque-là qu'aujourd'hui. Et il fallait quand même effectivement arriver à comprendre. La quête essentielle des débuts du christianisme, c'est qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce qui est vrai dans tout ce qu'on voit, tout ce qu'on nous dit, celui-là il pense ça, et quel est le bon rite, l'orthodoxie, quelle est la bonne façon de célébrer les mystères. Plus on avance dans l'histoire chrétienne, plus on se pose de questions, parce que finalement on se pose des questions quand on est en face d'un problème. Et donc là, alors l'organisation autour d'anciens, le presbytéroi, les anciens, ceux qui ont de l'expérience.
Alors, les évêques, donc ?
Et les évêques, qui au départ donc, sont là pour un peu organiser, surveiller une communauté.
Comment sont-ils nommés, eux, les évêques ?
Dans les premiers temps, c'était même assez étonnant, puisqu'on a même élu les évêques par la population.
Donc, le plus méritant, quoi, le plus sage.
Je ne sais plus si ce n'est pas Saint Ambroise qui est élu par le peuple, mais il n'est même pas encore baptisé. Donc, c'est parce que, voilà, on a eu une période où... Mais les communautés étaient suffisamment petites, si je peux dire, pour que ces choses-là existent. Après, évidemment, là vient la tradition apostolique. Plus l'Église se développe, plus les évêques prennent d'importance et de pouvoir, et de responsabilité surtout. Et donc, ils vont chercher de plus en plus à se reconnaître les uns les autres, et on fera des ordinations des sacres d'évêques par imposition des mains.
Par d'autres
évêques, ce qui est resté le cas aujourd'hui.
Et il y avait donc le pape, les premiers papes arrivent très vite.
Mais alors, non, les premiers papes n'arrivent pas très vite.
C'est a posteriori qu'on appelle Saint-Jacques, oui. Le pape, les premiers papes, etc.
Pas Saint-Jacques, Saint-Pierre, le premier pape. Non, on n'appelle pas ça pape, il est évêque de Rome.
Il est évêque de Rome, tout simplement. D'accord.
Pendant des siècles... Et justement, c'est une des causes du schisme. On commencera à appeler pape et à donner une autorisation de supériorité à l'évêque de Rome, ce qui a fait le schisme, une des raisons du schisme.
D'accord. Et que se passe-t-il alors quand une communauté n'en fait qu'à sa tête ? Est-ce qu'il y a des sanctions qui peuvent être prises ?
C'est un des problèmes qui fait que les évêques se rencontrent sous forme synodale. Pendant des siècles, c'était comme ça, des synodes d'évêques. On discutait jusqu'à voir si on peut convaincre... Celui qui pose problème, s'il n'est pas convaincu, on le met à pied et ça va jusqu'à l'excommunication dans certains cas.
Il y a une culture de débat.
C'est vraiment une culture de débat. Les débuts, c'était entre chrétiens, après c'est entre... Plus il y a de monde, plus il y a moins il y a de gens qui débattent, c'est les évêques. Mais c'est une culture de débat, oui. Ça ressemble à une démocratie, hein.
Alors évidemment, la date clé, c'est 325 avec Constantin.
Pour lui... On ne saura jamais si c'est une affaire mystique ou une affaire de politique. Il a unifié l'Empire romain en battant des concurrents et avec cette fameuse vision de la croix du Christ, par ce signe tu vaincras. Mais voilà, donc on ne sait pas s'il faut trier entre mystique guerre et politique, enfin, il y a eu cette unification de l'Empire, et en même temps, cette acceptation du christianisme et cette volonté de faire du christianisme la religion d'Empire.
La religion de l'État. Parce que faut dire aussi que l'Empire romain était habitué à une religion d'État et qui avait un vrai rôle unificateur entre les peuples.
Bien sûr, sauf que c'était l'empereur qui était le... Et alors, avec Constantin, c'est un peu mélangé, parce qu'il se considère quand même comme le délégué de Dieu sur Terre. Il se mêle quand même de les premiers empereurs, lui et son fils, et puis encore un ou deux après, se mêlent vraiment de la religion. C'est pas qu'ils prennent la place des évêques, mais ils fourrent leur nez partout, quoi. Il faut toujours qu'ils donnent leur opinion, et quand ils peuvent, ils interviennent. Et entre autres, quand il y a trop de conflits, c'est ce qui se passe en 325. C'est l'empereur qui dit « bon, ça suffit, on réunit les évêques et on discute ».
Alors Constantin est donc le chef de cette de l'Église, donc.
Il n'est pas le chef, part, hein. Mais il est co-chef. Ouais. C'est compliqué de les.
Et ça a duré pendant des siècles et des siècles entre le pouvoir.
Ça, on a donné à ça le nom de césaro-papisme. On mélange un peu tous les rôles. Des fois, c'est le pape qui dirige les empereurs. Des fois, c'est les empereurs qui dirigent le pape. Hein, Napoléon, c'était quand même... C'est très difficile de démêler ça, très difficile.
Mais est-ce qu'on s'est basé quelque part sur la tradition juive avec une séparation de l'Église et de l'État Il y a une volonté
Il y a une séparation qui est dans l'Évangile. Hein, Jésus dit « Rendez à César ». Qui est à César. Par contre, Constantin et l'État, la puissance, a une influence incroyable, parce que justement, christianisme, religion d'un État aussi énorme que l'Empire romain unifié, donc il a imposé un modèle culturel.
Et puis pendant longtemps, ce sont les empereurs qui ont désigné les papes. Pendant très longtemps.
Oui, mais après.
Après, évidemment.
Après. Là, on n'en est pas du tout là. Là, on en est encore à l'élection des évêques par d'autres évêques. Mais il y a la puissance organisatrice de l'Empire qui est terriblement utile pour installer l'unité de l'Église. Donc, l'Église en a tiré, en tout cas, une implantation plus sécurisée. Et puis... On en a trouvé des avantages, hein, c'est certain.
Nous nous retrouvons en 325 avec le premier des quatre grands conciles dont on parlait en introduction. Un concile qui a lieu à Nicée, en Turquie. On peut s'étonner déjà qu'il n'ait pas lieu à Rome.
Voilà. Mais Constantin a fait beaucoup de bien, et à mon avis, mais c'est mon avis, je le partage, mais beaucoup de mal, parce que dès le départ, il prend des décisions sans consulter et effectivement, il décide que Rome n'est pas pure sur le plan de la foi. Il y a trop de... C'est vrai, il y a d'autres religions encore, de traces, de ce qu'on appelle déjà chez lui le paganisme. Donc, et pour lui, Rome, c'est pas intéressant. Et effectivement, on voit déjà là en germe tous les problèmes, parce que du coup, les Romains... sont vexés, parce que c'est quand même là que se trouvent les racines principales de Saint-Pierre, Saint-Paul.
En tout cas, la source du pouvoir.
Pas du pouvoir encore, non.
Du pouvoir avec Constantin, une certaine forme de
oui,
pouvoir.
En tant qu'empereur. En tant qu'empereur. Je parle dans l'Église, il se trouve les racines apostoliques, si je peux dire. Donc... quand on dit le premier concile œcuménique à Nicée est fort... Mais c'est pas vrai, là. L'évêque de Rome n'y est jamais allé à ces conciles. Jamais. Il y a toujours eu quelques délégués. Donc c'est dès le départ, le pape, c'est pas les papes, c'est l'évêque de Rome, a marqué qu'il n'était pas content de cette situation géographique. Et c'est vrai que tous les conciles vont être marqués par ce déséquilibre, quoi.
Alors quel est le but de ce premier concile ?
Déjà l'unité, hein. Bon, comment faire l'unification maximum de l'Église en parallèle à l'unification de l'Empire. Donc on prend trois grandes villes, Rome qui est quand même considérée, Alexandrie et Antioche, et puis on met des super évêques. Donc ça c'est quand même le rôle un peu de l'influence de l'empereur. On met des archis, enfin il y a toute une hiérarchie d'évêques, tout le monde ne s'occupe pas de tout, donc on commence à mettre une hiérarchie d'organisation. Et puis l'autre grand problème, eh bien, c'est Arius et sa doctrine. Alors là, c'est les problèmes intellectuels. Le problème, est-ce que le Christ est Dieu ou pas ? Voilà, donc c'est pas un petit problème. Hein.
Mais c'est vrai que c'est important de le dire, aujourd'hui, ces questions pourraient paraître superflues ou alors...
Bah, elles sont superflues dans l'Église, mais si vous sortez sur la place publique chez les athées, ça ne sera pas des questions superflues. Hein.
Alors qu'elles sont essentielles.
Il y a toujours des gens qui disent, ben, Jésus, je veux bien y croire, mais c'est jamais qu'un prophète. Hein. Mais c'est certainement pas Dieu et le Fils de Dieu. Donc ça, c'est les questions qui se posaient à cette époque-là.
La question donc sur la nature de Jésus.
Alors, voilà. Alors, donc, le Concile de Nicée établit que, à la majorité, que Christ est Dieu, Fils de Dieu, Dieu.
C'est un premier pas vers la Trinité, le dogme de la Trinité.
Oui. Sans que l'Esprit Saint est vaguement évoqué, pas encore complet, mais c'est déjà, effectivement, une première définition.
Alors, dans ces conciles, il y a des évêques, mais il n'y a pas que des évêques, il y a aussi les grands intellectuels chrétiens de l'époque qui s'y retrouvent.
Ah oui, mais c'est presque toujours des évêques.
Ils sont tous évêques, d'accord.
Bon, en général, quand il y a un grand intellectuel, on en fait un évêque.
On en fait un évêque, d'accord.
Mais ce qui ne veut pas dire que ce concile a été reçu. Alors, c'est tout le problème de la réception. On peut toujours édicter en haut lieu des choses, mais si en bas, à la base, on n'en tient pas compte...
De toutes les lois, effectivement.
Cette réception du concile de Nicée, elle ne s'est pas faite automatiquement du tout. Alors, déjà, il faut dire que on a établi le symbole de Nicée, le symbole des apôtres, un peu... en grec, avec un terme pour Jésus, homoousios, de même nature que le Père. Alors, il y a ceux qui disent non, il n'est pas de même nature, il est d'une nature homoousios, de nature semblable. Alors, il y a ceux qui vont dire ah ben non, pas du tout. Il est semblable au Père peut-être, mais il n'y a pas de nature semblable. Ça va être les homéens. Puis alors, les anoméens, c'est-à-dire il n'est pas du tout semblable. Donc, vous pouvez toujours faire un concile, vous aurez des sous-groupes adversaires. Hein. Donc, l'Église, elle sort du concile complètement divisée. Donc, le but de l'unité, c'est encore passé à côté. 80 ans, jusqu'à ce qu'un autre empereur, Théodose, dise « Bon, c'est fini ».
Et on 60 recommence. Ans plus tard,
80 ans,
en 381, un nouveau concile à Constantinople cette fois.
Oui, mais cette fois, c'est toujours pas Rome, hein, vous
c'est
remarquez.
Toujours pas Rome.
on va établir le symbole de Nicée-Constantinople qui est.
Le credo tel qu'on le récite encore aujourd'hui
presque.
Ou pas presque.
Presque. Je vous lis la phrase que vous avez tous par cœur, peut-être. C'est intéressant parce que. Il est né Dieu de Dieu, lumière, tout ça, c'est. Il n'y a pas de problème. Il descendit, il reviendra dans la gloire. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père. Point. Ça, c'est le concile.
Ça, c'est le concile.
Nicée-Constantinople. Il procède du Père.
Ouais.
Et voilà, petit problème.
J'imagine que chaque virgule a été discutée à
tout
l'époque.
Tout a été, oui, mais le procès du Père, et quand est-ce qu'on a ajouté « il procède du Père et du Fils » sous Charlemagne. Et là, c'est irrecevable pour l'Église aujourd'hui, qui disent « mais on fait un symbole d'unité ».
Entre tous les chrétiens.
Et vous vous permettez d'ajouter un mot sans nous demander notre avis. Eh bien, ça fait un symbole de division. C'est très, très pénible, tout ça.
Ouais.
C'est très humain. C'est toujours le côté pile et le côté face en même temps. Vous avez des bienfaits, puis vous avez des problèmes.
En plus, ce concile, il va y en avoir un nouveau ensuite, en 431, le concile d'Éphèse. Celui-ci a été rassemblé pour lutter contre le nestorianisme.
Ben oui, c'est toujours les
c'est
problèmes.
C'est toujours la question de la nature
c'est toujours des
du Christ.
Questions. Ben c'est Jésus est-il fils de Dieu ? Mais alors, Marie, qu'est-ce qu'elle est là-dedans ? Elle est mère. Alors, il est quand même homme. Alors voilà, on va dire, il est. Il y a deux personnes en Jésus, on va dire. Il est homme et Marie est mère de Jésus, homme. Alors, bah, les grands intellectuels, voilà. Alors, genre Cyril d'Alexandrie, ils disent, mais non, il n'y a pas deux personnes en Jésus.
Un concile mouvementé, là. Un concile mouvementé entre Nestorius et Cyril d'Alexandrie.
Ils sont tous un peu mouvementés. Hein. Finalement, Nestorius n'aura pas gain de cause, quoi. Donc, mais c'est quand même très difficile. Imaginez que vous posez cette question aux gens athées aujourd'hui. Si Jésus est fils de Dieu, il est homme et fils de Dieu, alors est-ce qu'il y a deux personnes en lui ou pas ? Eh bien, écoutez, c'est pas si facile que ça à débattre, donc il faut vraiment réfléchir.
Et j'imagine que le choix s'est pas fait à pile ou face.
Non, donc.
Avec des frères réflexions.
Et puis, malgré tout, Saint-Cyril, il a gagné sans gloire. Et on dit qu'il s'est enfui chez lui. Mais il avait gagné sur le principe parce qu'effectivement, on a dit que le Concile d'Éphèse a déclaré la Vierge Marie mère de Dieu.
Ce sont des vraies questions théologiques, ce ne sont pas des prétextes à des luttes intrinsèques de pouvoir.
Peut-être, mais bah, bien sûr, il y a toujours des trucs de caractère, mais c'est des vraies questions,
théologiques.
Ouais. Nestorius n'était pas n'importe qui, c'était un archevêque, quand même patriarche de Constantinople. Donc c'est des gens qui sont arrivés à un haut niveau de théologie, mais qui ont certaines convictions. La question, est-ce que toute l'Église doit suivre ses convictions ou pas? Voilà, et on discute, et le Nestorius.
Et discussions qui se prolongent parce que Cyril d'Alexandrie, lui aussi, va continuer à réfléchir.
Ben oui, parce que ça lui plaisait quand même pas, cette définition d'Éphèse, mère de Dieu. Oui, mais deux personnes, non, mais une personne. Mais en même temps, si vous lisez les évangiles, vous voyez bien que Jésus a parfois des réflexions parfaitement humaines, et parfois, il parle vraiment comme s'il était Dieu lui-même. Donc, en lisant les textes, on voit bien qu'il y a deux, non pas deux personnes, et on va dire de nature.
Quoi. Et alors, quelques années plus tard, un nouveau concile se met en place, une espèce de concile off, un concile un petit peu de brigandage, dites-vous.
Mais c'est autour de cette notion de nature que ça a commencé. Parce que si Saint-Cyril a commencé à dire qu'il y a une personne en Jésus-Christ, mais deux natures, évidemment, il y a eu des gens qui disaient « mais c'est pas vrai !» En disant qu'il n'y a qu'une seule nature, un mélange divino-humain, une espèce de soupe dont il ne faut pas chercher à comprendre comment ça se fait. Et puis, il y a eu, ça s'appelle, c'est pas moi qui l'ai appelé, ça s'appelle le brigandage d'Éphèse, parce qu'en fait, les gens étaient vraiment en rage, quoi. Et Saint-Cyril a demandé, à participer à ça, et enfin, c'était des disputes vraiment incroyables, c'est très important. Parce que nous, on récite ça tous les dimanches, on peut comme si c'était...
Oui, nous, on a la solution, mais il fallait la trouver, la solution.
Il fallait la trouver, quoi. Donc là, c'était terriblement important, parce que, voilà, alors, c'est un concile assez violent.
Qui plie à personne, du coup.
Qui, pour essayer de savoir s'il y a une ou deux natures. Et comme d'habitude, quand il y a comme ça des bagarres entre évêques invraisemblables, eh ben c'est l'empereur qui arrive et qui donne un grand coup de...
Et à peine 3 ans plus tard, concile de Chalcédoine.
C'est Chalcédoine. Alors, c'est toujours Constantinople, mais c'est un peu sur le bord. Et alors là, on voit bien, c'est alors un énorme concile, énorme, énorme, énorme. 343 évêques présents. Presque 500 qui ont écrit ou donné leur avis. Mais dans les 343 présents, il y en aura 4 qui représentent Rome, et pas l'évêque de Rome, 4 représentants. Donc vous voyez, quand on appelle le concile œcuménique, c'est quand même une alouette à cheval, hein, comme on dit, c'est très déséquilibré. Et d'ailleurs, ce concile de Chalcédoine qui arrivera à dire donc, une seule personne en deux natures, mais en même temps dira, d'ailleurs Constantinople est la seule référence sur le plan de l'Église d'Orient. On ne tient plus compte de Rome du tout.
De Rome, ouais.
Alors là, Rome, pas content du tout. Parce que pour l'Église, l'évêque de Rome se considérait quand même comme le plus important de toute l'Église, sans division Orient-Occident. Hein.
Alors encore une fois, ce sont des vrais débats qui sont organisés. Chacun a la parole, chacun peut s'exprimer.
J'y étais pas, mais je suppose que oui. Je pense
avec,
que...
Les gens viennent avec leurs idées, avec leurs arguments, et on discute. Alors parfois, de manière violente, quoi.
Mais parfois, alors là, eux ils en venaient parfois aux mains. Hein, mais c'était quand même des gens civilisés, donc c'était surtout des violences verbales. mais aussi à coup d'exclusion réciproque. C'est ce qui fait des schismes, parce que les deux s'en vont persuadés d'avoir raison.
Alors, okay. 4 conciles pour tenter de mettre tout le monde d'accord, et au bout du compte, eh bien, c'est l'échec.
Avec, ben non,
est-ce que c'est un échec, échec avec
ah
le
ben
schisme
c'est
de 1954
c'est ambigu, c'est ambigu.
Ça se termine quand même par un schisme.
C'est-à-dire que l'Église monophysite, ceux qui croient à la nature unique, ça existe toujours, l'Église monophysite, elle s'est créée. C'est pas un schisme, c'est la non-acceptation du concile. C'est-à-dire que le concile est reçu par... L'Église, elle se définit comme ça. À force de concile, finalement, qu'est-ce qui est... la vraie Église, c'est ceux qui acceptent les conciles. Donc ceux qui n'acceptent pas un concile, ils se mettent eux-mêmes hors Église, ils font une Église séparée. Donc ce concile-là a engendré l'Église monophysite, l'Église copte, l'Église syrienne orthodoxe.
Mais si chaque concile divise l'Église de plus en plus...
Mais c'est le paradoxe. On fait des conciles pour trouver l'unité de l'Église, et plus vous faites des conciles, plus vous faites des divisions.
Et c'est là où...
Mais en même temps, vous cernez qu'est-ce qu'est la vérité. En tout cas, pour ceux qui l'acceptent.
Pour ceux qui l'acceptent.
Ce qui fut, que vous dites, un schisme, pendant des siècles, effectivement, il y a eu schisme, mais maintenant, Jean-Paul II a réconcilié les monophysites. Je trouve ça très intéressant. Il a déjà, donc là, en 1984, Jean-Paul II a fait une déclaration commune avec ces églises-là, et puis en 1994 avec les Nestoriens, qui existaient encore. L'église nestorienne, c'était les Syro-Chaldéens, l'église assyrienne, l'ancienne église d'Orient, etc. Et Jean-Paul II a fait des textes communs. Il essaye justement de démontrer que ce sont des problèmes de terminologie différentes, mais que le fondement de la foi
est le même.
C'est un petit peu, je trouve que ça rejoint... Quand on parle avec des gens dans l'Église, alors pour le coup, ils disent « mais tout ça, ça n'a pas d'importance, nous avons la... » Jusqu'à un point, oui, finalement, le fondement de la foi, il ne faut pas non plus se laisser embarquer dans des mots qui divisent. N'empêche que l'Église, aujourd'hui, elle est toujours divisée sur des mots.
Oui.
Et des grands papes essayent de faire des déclarations d'unification maintenant.
Alors, l'Empire qui tenait un petit peu tout ça, lui aussi va sombrer en 1476 avec les invasions barbares.
À l'Occident, pas l'Orient, justement. Mais l'Empire, il va déjà dégringoler le fameux Empire unifié de Constantin. Théodose le Grand, lui, il a eu 2 fils... On connaît l'histoire, avec Charlemagne c'était pareil, et 2 fils, mais on redivise l'Empire. Donc tout le travail de papa, c'était fini, et en plus ça va tourner vinaigre, parce qu'effectivement l'Occident, lui, va... Alors c'est compliqué, parce que on peut... l'Occident, l'histoire de l'invasion des barbares, c'est d'une complexité folle, parce que c'est pas vraiment une invasion au départ, ils sont invités par les Romains. Parce qu'on manque de main-d'œuvre. Vous savez bien, à toutes les époques, c'est pareil. Économiquement, on se dit que ça va nous faire du bien d'inviter les barbares. Alors, barbares, ça ne veut pas dire des cruels. Barbares, je rappelle que ça veut dire qu'ils parlent une autre langue. Le mot barbare, c'est ils parlent différemment et on ne comprend pas ce qu'ils disent.
C'est étranger, tout simplement.
C'est des étrangers. Mais avec l'idée que la vérité est chez nous et que les étrangers, ce n'est forcément pas bon. Mais l'Empire romain s'allie avec les barbares. Sur un plan culturel et économique, ça leur paraît une bonne idée, quoi. Mais en fait, plus l'Empire romain s'affaiblit, alors les problèmes de succession, de meurtres réciproques, enfin, vous connaissez bien tout ça, et bien plus les invasions barbares deviennent, là, pour le coup, des vraies conquêtes. Alors, depuis 410, la prise de Rome, ça a été déjà le déclin, quoi. Les Visigoths sont entrés à Rome en 410, en Espagne en 415. Et l'Afrique du Nord a envahi, ça c'est fou, quoi. Carthage.
Attila. Alors même si les barbares vont se convertir au christianisme...
Mais ils sont déjà convertis, c'est ça qui est fou. Ces barbares-là, ils ont été par des biais que je ne comprends pas très bien, mais on voit bien comment ça remonte par le côté droit de la Méditerranée, c'est remonté vers l'Europe centrale. Mais qui est remonté? C'est Arius qui est remonté, c'est-à-dire un hérétique. Donc ils sont déjà convertis, mais à l'arianisme. Donc ils vont arriver avec un christianisme qui n'est pas celui qui remonte par l'autre côté. Donc ça va encore faire des bagarres, mais là, ça se réglera plus politiquement.
Mais on voit déjà donc avec deux empires, deux cultures qui commencent à se diviser entre Orient et Occident, et effectivement avec Charlemagne, là, c'est.
Mais bien avant, finalement, ça se divisera surtout quand on a commencé avec Saint Jérôme à traduire la Bible en latin. Puis c'est le latin qui s'impose.
Deux cultures, le latin, le grec.
Et alors qu'en Orient, ça reste le grec, et même. Les langues locales, puisque s'il y a beaucoup dans l'orthodoxie, dès le départ, il y a des schismes locaux entre nations. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être les mêmes idées, mais ils ont des églises nationales.
Oui, on le voit encore aujourd'hui, évidemment.
Et c'est toujours comme
c'est
ça aujourd'hui.
Cas, ouais.
Donc, y a les slavons, enfin bon,
bien sûr, ouais.
Ils ont le principe, mais alors par contre, le latin à l'Occident va être unifié l'église d'Occident. La Bible est en latin, et puis vous avez Saint Grégoire le Grand, alors, qui remet de l'ordre et de la discipline latine dans tout ça. Alors lui, il va remettre la hiérarchie, l'organisation, le pouvoir. Donc, et c'est bien avant. C'est Grégoire le Grand, il est pape à la fin du VIe siècle, quoi. Donc,
alors, durant ce temps, déjà, l'Église d'Orient fait ses conciles, commence à faire ses conciles de son côté. Trois conciles.
Oui.
Donc, ça fera sept pour l'Église d'Orient. L'Église d'Orient s'arrêtera à ces sept conciles.
Voilà, ce qu'on appelle l'Église orthodoxe, c'est l'Église des sept conciles.
Et nous en sommes au 21e concile.
Ouais, et puis après, on a recommencé, effectivement.
On a continué à faire des conciles.
À l'Occident, mais alors, chacun chez soi.
Le grand schisme, c'est donc 1054, nous l'avons évoqué tout à l'heure.
Les causes, voilà, c'est le filioque dont on parlait tout à l'heure, et du fils. Il supprime le pain levé dans l'Eucharistie, on met des hosties. Il impose le célibat des prêtres. Et surtout, il impose la supériorité de l'évêque de Rome, pape.
Alors, cette histoire de concile, cette histoire de naissance de l'Église, est-ce qu'on peut dire, un millénaire après sa création, que c'est un échec ou pas?
C'est pas moi qui peux vous répondre. Mais y a
c'est vertigineux comme question.
Les deux, mon général. C'est-à-dire, il y a une unification et des divisions chaque fois. Quand vous voyez le nombre d'églises orthodoxes, le nombre d'églises protestantes, une église catholique unifiée, mais unifiée...
À quel prix aussi
Et puis jusqu'où? Puisqu'il y a quand même eu des schismes aussi traditionnalistes, etc.
Les protestants qui arriveront après, évidemment.
Ah bah, on n'en est pas encore là.
Bien sûr,
mais l'église qui se morcelle chez les protestants, incroyablement. Alors tout ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On prie pour l'unité de l'Église, mais est-ce que l'unité d'une chose qui doit être dans les faits, ou est-ce qu'elle doit être dans la profondeur de la foi?
On se rend bien compte, en tout cas, que l'institution Église est une édification humaine.
C'est mélangé d'humain, oui.
Et que le christianisme, lui, ici, de la personne de Jésus, est inspiré par Dieu, mais l'Église est véritablement une conquête humaine, pour le coup.
Bah oui, moi, je dois dire, si vous me demandez mon opinion personnelle, j'ai quand même une dent contre Constantin. Je trouve que de faire de la foi chrétienne une religion d'État, c'était pas une bonne idée. Justement, c'est pas évangélique, rendez à César ce qui est à César. Je pense que ça fait pas du bien d'avoir une religion obligatoire, parce qu'il a rendu d'État, ça veut dire obligatoire. C'est comme l'islam aujourd'hui. Si vous êtes dans le pays, il faut être chrétien, quoi. Finalement, ça s'est retourné, on persécutait les païens. Donc, ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Moi, je suis pas d'accord avec Constantin, mais c'est 3e siècle, 4e siècle. Donc, si je suis pas d'accord avec Constantin, je suis pas d'accord avec toute l'histoire de l'Église.
Ouais. Et notre cycle sur l'histoire du christianisme s'arrête ici, à cette émission-là. Donc, on peut, c'est vrai, regarder aussi, balayer rapidement l'histoire de l'Église qui a suivi ce premier millénaire et voir que c'est une institution qui a évidemment façonné l'Europe et le monde.
Et ça, c'est des bienfaits. Hein.
Avec l'organisation de la charité, de l'éducation, de la médecine.
La hiérarchie a du bon. C'est parce qu'effectivement, il y a un certain ordre, une cohérence qui peut arriver. Et surtout, effectivement, la culture chrétienne a infiltré quand même toute la civilisation. Hein. Si vous savez, je répondrai par la parabole du bon grain et de l'ivraie. Hein. Il y a du bon, du mauvais. Jésus dit surtout, n'essayez pas d'en arracher, parce que si vous arrachez du mauvais, il viendra du bon avec. Il faut prendre les choses comme elles sont. Maintenant, où ça va, j'en sais rien. Mais le bon grain et l'ivraie sont mélangés tout le temps, depuis le départ. Chaque fois que quelque chose de bien se met en place, vous avez un revers, un défaut qui se met en place en même temps. Donc, je ne comprends pas comment ça marche, moi, mais je vois comment ça marche.
Catherine Mann, un grand merci pour tout ce cycle sur l'histoire du christianisme.
Les débuts.
Les débuts, le premier millénaire. à très bientôt sur Radio Grand Ciel.
Au revoir Simon, à bientôt.